Le premier conflit mondial était principalement une guerre de tranchées. Une armée attaque et au mieux prend un petit bout de territoire tout en se faisant massacrer. Ensuite, l'armée adverse fait de même et on recommence. C'est un peu ce qui s'est passé en Palestine pendant très longtemps entre la dynastie des Ptolémées en Égypte et celle des Séleucides en Syrie. Ces guerres sont prophétisées parce que le territoire d'Israël fait partie des enjeux des deux adversaires. Sur le terrain, le roi de Syrie a attaqué l'Égypte, mais ayant subi une cuisante défaite, il doit rentrer chez lui où il meurt d'un accident. Je continue à lire dans le chapitre 11 de Daniel. « Ses fils se rassembleront et mobiliseront une armée très nombreuse qui submergera tout sur son passage. Ils inonderont le pays. Sur le chemin du retour, ils attaqueront la forteresse. » Verset 10. Les fils du roi de Syrie sont Séleucus III et Antiochus III le Grand, à ne pas confondre avec Antiochus IV Épiphane, dont il a déjà été beaucoup question. Le premier des deux frères étant mort au combat en Asie mineure, Antiochus III poursuit seul la préparation d'une nouvelle guerre contre le roi d'Égypte, Ptolémée IV. Les Égyptiens qui occupaient la Palestine jusqu'à la frontière de la Syrie sont repoussés par Antiochus qui envahit également la Phénicie et s'avance, menaçant la forteresse de Raphia au sud de la bande de Gaza, pratiquement sur la frontière de l'Égypte. Je continue. C'est alors que le roi du Midi, exaspéré, lancera une offensive contre le roi du Nord. Il mettra sur pied une grande armée et il aura la victoire sur les troupes adverses. Verset 11. Irrité par les succès de son adversaire, le roi d'Égypte se secoue les puces, aligne ses troupes et attaque Antiochus qu'il écrase à la bataille de Raphia. Je continue. Une fois ses troupes vaincues, il s'enorgueillira et fera tomber des milliers d'hommes, mais son triomphe sera de courte durée. Verset 12. Les Égyptiens tuèrent 10 000 Syriens et firent 4 000 prisonniers. Mais au lieu de profiter de ce succès et de conquérir la Syrie, Ptolémée fait la fête, une indolence voluptueuse qui lui fait perdre les fruits de sa victoire. Je continue. Car le roi du Nord mobilisera de nouveau des troupes plus nombreuses que les premières, et après quelques années, il retournera en Égypte avec une immense armée et beaucoup de matériel de guerre. Verset 13. 14 ans après la bataille de Raphia, Antiochus, fortifié et enrichi par des campagnes victorieuses en Perse et en Asie mineure, rassemble encore une fois une armée considérable et attaque le nouveau roi d'Égypte, Ptolémée V, qui n'a que 5 ans, et reconquit la Palestine qu'il avait perdue. Je continue. En ce temps-là, beaucoup s'élèveront contre le roi du Sud, et des hommes violents parmi ton peuple se soulèveront pour accomplir la vision, mais ils trébucheront. Verset 14. Des soulèvements éclatent dans plusieurs pays soumis à l'Égypte. Philippe V de Macédoine se joint à la Syrie contre Ptolémée V. Une partie des Juifs de Judée soutient Antiochus, espérant sans doute se débarrasser de toute tutelle. Mais ce sera le début des malheurs qui affligeront Israël sous la domination syrienne. Je continue. Le roi du Nord viendra donc, il dressera des remblais de siège contre une ville fortifiée et s'en emparera. Les armées du roi du Midi ne résisteront pas au choc, même sa troupe d'élite ne tiendra pas. Verset 15. Le général égyptien Scopas s'était réfugié dans la ville fortifiée de Sidon, mais il fut assiégé et dut se rendre. 3 différents généraux égyptiens furent envoyés à son secours, mais ils échouèrent l'un après l'autre. Cette victoire permit à Antiochus de récupérer toutes les possessions égyptiennes en Asie. À partir de 198 avant Jésus-Christ, c'est la Syrie qui contrôle la Palestine. Je continue. L'envahisseur avancera à sa guise et personne ne pourra lui résister. Il prendra ensuite position dans le pays magnifique, la destruction dans sa main. Verset 16. Antiochus III décima les Égyptiens, mais il fut bienveillant envers les Juifs et donna même de l'argent au temple de Jérusalem. Je continue. Il entreprendra alors de venir avec toutes les forces de son royaume et il conclura une alliance avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille en mariage dans le but de détruire son royaume, mais ce plan ne réussira pas et ce royaume ne lui appartiendra pas. Verset 17. Nous sommes en 194 avant Jésus-Christ et Rome commence à montrer les dents. Antiochus ne veut pas provoquer cette puissance montante en s'emparant de l'Égypte, alors il va ruser. Il offre sa fille Cléopâtre en mariage au jeune roi Ptolémée V, qui n'a que 9 ans, espérant ainsi se rendre éventuellement maître de son pays. Mais Cléopâtre prit toujours le parti de son mari contre son père, ce qui fit échouer le plan de ce dernier. Je continue. Alors il se tournera du côté des îles et s'emparera de beaucoup d'entre elles, mais un général mettra un terme à son arrogance injurieuse sans que le roi du Nord puisse le lui rendre. Verset 18. Antiochus prend plusieurs îles de la mer Égée qui sont alliées à Rome, occupe les rives du Bosphore et la ville d'Éphèse. Il traverse le détroit des Dardanelles qui sépare la partie européenne de la Turquie frontalière avec la Grèce du reste de l'Asie mineure. Antiochus marchait sur les plates-bandes de Rome qui trouve que ça commence à bien faire et lui adresse un avertissement auquel le roi de Syrie répond de manière injurieuse. Une très mauvaise idée. Les Romains qui venaient de battre Philippe V de Macédoine, allié d'Antiochus, lui barrent la route à Thermopyle. Puis le général Scipion l'Africain le poursuit et l'écrase en l'an 189 à Magnésie. L'année suivante, Antiochus doit signer la paix avec Rome, lui céder tous ses territoires et lui payer un énorme tribut. Antiochus ne conserve plus qu'une petite façade maritime en Syrie, car tout le reste de la Méditerranée est sous contrôle romain. Je continue. Ensuite, il reviendra s'occuper des citadelles de son propre pays, mais il tombera et s'en sera fait de lui. Verset 19. Battu, Antiochus doit mettre un terme à ses conquêtes et songer à remplir ses coffres vides, afin de s'acquitter du tribut que lui impose Rome. Il se rend alors dans la province d'Élam, située à l'est de Suse, l'ancienne capitale de l'Empire perse, et en juillet 187, il pille le temple de Bélus, mais le roi et ses soldats sont massacrés par une poignée d'hommes indignés par ce sacrilège. Je continue. Son successeur enverra un exacteur dans le lieu qui est la gloire du royaume. En peu de jours, il sera brisé et ce ne sera ni dans une querelle violente, ni dans une bataille. Verset 20. Le successeur d'Antiochus III le Grand est son fils aîné. Son règne ne présente rien de particulier, sinon qu'il a envoyé un de ses ministres à Jérusalem pour piller les trésors du temple afin de payer les Romains. Ce roi mourut dans des circonstances mystérieuses, certainement empoisonné par son ministre, soudoyé par le futur Antiochus IV Épiphane. Je continue. Un homme méprisable lui succédera sans avoir reçu la dignité royale. Il surviendra en temps de paix et s'emparera de la royauté à force d'intrigues. Verset 21. Il s'agit d'Antiochus IV Épiphane, frère du roi défunt. Le fils de ce dernier étant retenu à Rome en otage, Antiochus arrive, au moyen de magouilles, à s'emparer de la royauté qui revenait de droit à son neveu, prisonnier. Par opposition au surnom Épiphane, qui veut dire « illustre », l'auteur lui applique ici l'épithète « méprisable ». Ses sujets aussi le tournaient en dérision en l'appelant « épimane », c'est-à-dire « fou ». Je continue. Les forces adverses qui débordaient comme une inondation seront submergées et brisées par lui. Il tuera aussi un chef du peuple de l'Alliance. Verset 22. Le roi d'Égypte, neveu d'Antiochus Épiphane par sa mère Cléopâtre, attaque son oncle pour des histoires de dot, mais est battu et fait prisonnier. Antiochus s'en prend alors à Jérusalem. Il destitue le grand prêtre Onias III, le remplace par son traître de frère Jason, et emmène Onias en Syrie où il le met à mort. Je continue. En dépit de l'accord conclu avec lui, il agira avec ruse, rompant les liens qui l'unissaient à lui. Il attaquera et remportera la victoire avec une poignée d'hommes. Verset 23. Feignant de l'amitié pour son neveu Ptolémée VI, Antiochus déclare qu'il veut le remettre sur le trône. Sous ce prétexte, il pénètre en Égypte. Je continue le texte. En temps de paix, il envahira les plus riches régions de la province et accomplira ce qu'aucun de ses ancêtres n'avait fait. Il pillera le pays et distribuera largement à ses partisans ce qu'il aura pillé, le butin et les richesses dont il se sera emparé. Il fera des plans d'attaque contre les forteresses, mais tout cela ne durera qu'un temps. Verset 24. Dans un sens, Antiochus Épiphane était un Robin des Bois. Il volait aux riches, mais au lieu de dépenser l'argent pour ses propres plaisirs, comme avaient fait ses prédécesseurs, il le donnait aux plus pauvres afin d'obtenir leur soutien. Il réussit à occuper Memphis et la basse Égypte dont la fertilité est légendaire, mais ne peut pas prendre Alexandrie. Ce fut sa première campagne contre l'Égypte. Je continue. Rassemblant toutes ses forces et son courage, il lancera une attaque contre le roi du Midi avec une grande armée. Le roi du Midi le combattra avec une armée très puissante et nombreuse, mais il ne parviendra pas à résister à son adversaire à cause des complots dirigés contre lui. Ses familiers causeront sa perte. Son armée sera écrasée et beaucoup de ses soldats tomberont frappés à mort. Versets 25 et 26. Le roi du Midi est Ptolémée VII, frère du précédent Ptolémée VI, retenu prisonnier en Syrie. Il a été proclamé roi par les habitants d'Alexandrie. Antiochus Épiphane prétend se battre pour remettre sur le trône Ptolémée VI, l'aîné de ses neveux, mais avec l'intention secrète de prendre toute l'Égypte. En l'an 170, il attaque Ptolémée VII, qui est vaincu parce que trahi par ses conseillers à la solde d'Antiochus. C'est la seconde campagne d'Égypte. Je continue. Quant aux deux rois, ils chercheront secrètement à se nuire mutuellement. Ainsi, ils s'assieront à la même table pour se duper l'un l'autre par des mensonges. Mais leurs tractations ne réussiront pas, car la fin doit venir au temps fixé. Verset 27. Déjà à cette époque, les traités de paix ne valaient pas mieux que ceux qu'on signe aujourd'hui. Ces deux rois sont Antiochus et Ptolémée VI, qui étaient soi-disant alliés contre Ptolémée VII, le frère du VI, mais en réalité chacun essaye de tromper l'autre. Les mensonges consistaient à des témoignages d'affection et de confiance qui n'étaient sincères ni d'un côté ni de l'autre. Mais tous deux échoueront et Ptolémée VII conserva le trône. Je continue. Le roi du Nord retournera dans son pays chargé de grandes richesses et avec au cœur des intentions hostiles contre le peuple de Dieu. Il les exécutera avant de rentrer dans son pays. Verset 28. Après sa deuxième campagne d'Égypte, Antiochus ramène beaucoup de richesses, mais ça ne lui suffit pas et sur le chemin du retour, il pille le temple de Jérusalem et persécute sévèrement les Israélites, ce dont j'ai déjà amplement parlé. Je continue. Au temps fixé, il se mettra de nouveau en campagne contre le royaume du Midi, mais cette expédition ne se passera pas comme la première. Verset 29. Antiochus, apprenant que les deux frères Ptolémée VI et VII se sont réconciliés, il se sent trahi et attaque l'Égypte une troisième fois, mais ça se passe mal. Je continue. Des navires venant des côtes à l'ouest de la Méditerranée viendront s'opposer à lui et le décourageront. Il s'emportera de nouveau et agira contre l'Alliance Sainte, et il s'accordera de nouveau avec ceux qui la trahiront. Verset 30. Ce sont des navires de Rome ayant à bord l'ambassadeur Lénas, chargé de transmettre le décret du Sénat romain, ordonnant à Antiochus de quitter l'Égypte. Mais quand ce dernier demande un temps de réflexion, Lénas trace un cercle autour de lui et lui dit « Avant de sortir du cercle, décide. Soit tu quittes l'Égypte, soit tu te bats contre Rome. » Fou furieux, Antiochus part, mais pour apaiser sa colère, il se met en campagne contre Israël dans le but de supprimer toute identité juive et de transformer le pays en une colonie grecque. Je continue. Certaines de ses troupes prendront position sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire et la citadelle, feront cesser le sacrifice perpétuel et installeront la profanation abominable. Verset 31. Un contingent de 22 000 hommes sous la conduite de l'un des généraux d'Antiochus est envoyé à Jérusalem et s'installe dans la forteresse du Temple. Les sacrifices à l'Éternel sont interdits, des prostituées et des soldats commettent des actes dépravés dans la cour du Temple et des cochons sont sacrifiés à Zeus sur un autel construit au-dessus de l'autel juif des Holocaustes. C'est un avant-goût de la profanation et de la destruction du temple par les Romains qui eut lieu en l'an 70 de notre ère et qui aura lieu à la fin des temps sous le règne de l'Antichrist et qui s'appelle l'abominable profanation. Je continue le texte. Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'Alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Verset 32. Il y avait deux camps parmi les Juifs. D'un côté, ceux qui sont pour la culture grecque, voulue par Antiochus, et de l'autre, ceux qui restent fidèles au judaïsme, notamment la famille de prêtres, Mattathias Maccabée et ses cinq fils qui prennent les armes. Ils s'enfuient dans la montagne où d'autres patriotes les rejoignent. C'était le début de la révolte des Maccabées et de la résistance à l'envahisseur. Cette prophétie s'accomplira une deuxième fois à la fin des temps et concernera alors tous les croyants israélites et non-juifs de cette époque. Je continue. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide, mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux. Versets 33 et 34. Parmi les résistants, beaucoup n'étaient pas sincères parce qu'ils se sont seulement joints aux Maccabées quand ils ont vu d'une part que la guerre tournait en leur faveur et d'autre part comment Judas Maccabée punissait les traîtres. Plusieurs de la famille de Mattathias et beaucoup de juifs fidèles furent tués. Je continue. Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Verset 35. Ces sanglantes persécutions avaient pour but la purification du peuple de Dieu. D'un côté, les martyrs prouvaient leur dévouement à l'Éternel et de l'autre, ceux qui désertaient révélaient leur hypocrisie. Je continue. Le roi agira à sa guise, il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des cieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui et il parviendra à ses fins jusqu'à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Alors ce qui est décrété s'accomplira. Il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour le désir cher aux femmes, ni pour aucun autre dieu, car il se placera au-dessus de tous. Versets 36 et 37. Le roi syrien avait fait frapper des pièces de monnaie à son effigie sur lesquelles était écrit « Antiochus Théos Epiphanes », qui signifie « le Dieu manifesté ». Rien que ça. Il ne fait pas le moindre doute que ce despote était une vraie peau de vache. Cependant, ce passage a une double application. En effet, à partir d'ici, la prophétie glisse et passe d'Antiochus IV Epiphane à quelqu'un d'autre qui est simplement appelé le roi. Ce sera un tyran bien plus méchant et cruel que tout ce que le monde a connu. À côté de lui, Antiochus fait figure d'enfant de cœur. L'apôtre Paul s'est servi de ce passage pour décrire ce futur roi et il l'appelle l'homme de péché ou de la révolte. Il s'agit de l'Antéchrist, le César de la troisième phase de l'Empire romain. Donc, à partir d'ici, la prophétie concerne la 70e septaine de la vision précédente de Daniel. Ce roi sera un dictateur pur et dur qui agira indépendamment de toute autorité et au milieu de la tribulation, il sera élu Führer par une confédération d'au moins 10 États. Il assumera aussi un pouvoir total dans le domaine religieux, se plaçant au-dessus de toute divinité et blasphémant l'Éternel appelé le Dieu des dieux. Il n'aura aucune considération pour le désir cher aux femmes. Dans un contexte juif, cette expression désigne le Messie, car ce que les femmes juives désiraient plus que tout au monde était de donner naissance au Messie. L'Antéchrist n'aura aucun égard pour Jésus-Christ, tout en sachant très bien qu'il est le Fils de Dieu. Le monde entier révérera l'Antéchrist à cause des miracles que fera le faux prophète en son nom. Ces malheurs surviendront au peuple d'Israël à cause de sa rébellion contre l'Éternel et afin de le purifier. Je continue. Mais il vénérera le Dieu des forteresses en son lieu. Il rendra un culte à une divinité que n'ont pas connue ses ancêtres, et il lui offrira de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il attaquera des forteresses avec l'aide d'un dieu étranger. Il comblera d'honneur ceux qui accepteront ce dieu. Il leur conférera le pouvoir sur un grand nombre et leur distribuera des terres en récompense. Versets 38 et 39. Les Romains étaient toujours en guerre, mais n'ont jamais fait Dieu leur puissance militaire. L'Antéchrist, par contre, divinisera la guerre. Il créera un complexe militaire-industriel phénoménal, car il n'aura de respect que pour la force brute. Grâce à la supériorité de ses armées, il conquérera le monde entier. Se proclamant homme-dieu, il servira quand même un dieu étranger qui est Satan. Tout être humain est obligé d'adorer quelque chose. La seule option qui lui est offerte est de choisir devant quoi ou qui il va se courber.